Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Nous nous intéressons aujourd'hui à un article publié par Mediapart. Il s'appelle « L'ex-député LREM Benoît Simian, condamné pour le harcèlement de son ex-femme ». C'est vous qui en êtes l'auteur. Bonjour Antoine Rouget.
Bonjour.
Antoine, merci beaucoup d'être une nouvelle fois à ce micro pour évoquer cette affaire. C'est le troisième épisode que nous consacrons à cette histoire qui est assez hallucinante à plusieurs titres. On va revenir sur tout cela en détail, mais d'abord, si nous en parlons aujourd'hui, c'est donc parce que le jugement a été rendu récemment, jeudi dernier précisément. À quoi Benoît Simian a-t-il été condamné, Antoine, et peut-être plus important encore, à quoi échappe-t-il contrairement à ce que le parquet avait requis ?
Donc Benoît Simian, effectivement, ancien député de la Gironde, a été condamné pour le harcèlement de son ex-femme en première instance par le tribunal judiciaire de Bordeaux jeudi dernier. Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et à 5000 euros de dommages et intérêts pour son ex-femme au titre du préjudice moral. Il faut savoir qu'elle s'était vue notifier 10 jours d'ITT, d'incapacité totale de travail à la suite du harcèlement qu'elle a subi. Benoît Simian a également l'interdiction d'approcher son ex-femme et le domicile conjugal pendant la durée d'un an. En revanche, donc l'ancien député, il a échappé à une peine d'inéligibilité qu'avait requis le parquet, considérant que le comportement de l'élu était absolument inacceptable. La procureure de la République de Bordeaux avait sollicité une peine d'inéligibilité pour Benoît Simian lors de son procès, et le tribunal n'a pas fait droit à cette demande, considérant finalement que les actes reprochés à Benoît Simian étaient détachables de sa fonction d'élu, et donc il n'y avait pas lieu de retenir cette peine complémentaire.
Benoît Simian qui a par ailleurs perdu son mandat de député lors des dernières législatives. Alors pour comprendre dans le détail cette affaire, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à réécouter les deux premiers podcasts que nous mettrons en lien bien sûr dans la description de cet épisode. Mais en quelques mots, Anton, qu'est-ce qui était reproché à Benoît Simian ?
Alors, il reprochait à Benoît Simian son attitude avec son ex-femme, avec laquelle il est en instance de divorce, un divorce particulièrement houleux, entamé au printemps 2020, et à la suite duquel Benoît Simian a multiplié les actes de harcèlement, d'intimidation à l'égard de son ex-femme qui s'était vue octroyer la jouissance du domicile conjugal. Donc elle a continué à résider dans la maison que Benoît Simian et son ex-femme avaient achetée ensemble quand ils étaient mariés. Et Benoît Simian se devait de ne pas déranger la tranquillité de son ex-femme et de ses enfants. Or, il a multiplié les actes d'intimidation. La justice a retenu 41 faits. Il ne s'agit pas simplement d'une ou deux dénonciations. Il y a 41 faits qui ont été documentés sur plusieurs mois, montrant que Benoît Simian, malgré les rappels à l'ordre, venait déranger la tranquillité de son ex-femme, se présenter au domicile, effectuer des travaux, etc. Et là où c'est particulièrement intéressant, c'est qu'il a notamment revendiqué la possibilité d'installer une permanence parlementaire à l'intérieur de ce domicile, de cette propriété, dans une annexe en fait de la maison, mais qui est au bout du jardin, pour se présenter régulièrement au domicile. Et donc il a usé de cette manière-là de sa casquette de député, de représentant de la nation, pour continuer à venir dans le domicile, à venir déranger son ex-femme, alors que différentes décisions de justice justice, notamment le juge aux affaires familiales et ensuite la cour d'appel de Bordeaux, lui avait totalement interdit cela. Et c'est bien la répétition des agissements de Benoît Simian qui ont permis au tribunal de caractériser le harcèlement sur conjoint. 41 faits en quelques mois avec des scènes proprement hallucinantes et qui ont poussé d'ailleurs l'ex-femme du député à installer des caméras de vidéosurveillance de manière à documenter les choses et à faire un certain nombre de mains courantes, plaintes, etc. À la gendarmerie du coin pour aller dénoncer ce comportement-là.
Quand on parle de harcèlement, c'est un rythme effréné, à tel point même que les gendarmes ont eu du mal à croire l'ex-femme de Benoît Simian au début, et c'est ce qui l'a poussé, vous venez de le dire, à installer une caméra de vidéosurveillance pour qu'on s'aperçoive qu'elle disait vrai, avec en quelques jours des images montrant le député en train de se baigner dans la piscine, de planter des piquets devant le portillon, ou même d'entourer la maison de rubalise. Ça paraît invraisemblable, mais ça n'est là qu'une toute petite partie de ce que l'ancien parlementaire a fait subir à son ex-femme.
Oui, il y a un côté assez vertigineux au départ, et puis effectivement très extravagant quoi. On a du mal à y croire. Et d'ailleurs c'est ça aussi qui a été compliqué à comprendre dans cette histoire au départ, c'est-à-dire que où placer le curseur entre un divorce houleux duquel peut jaillir des inimitiés, des tensions importantes, etc., comme ça peut arriver dans la vie de nombreux couples en France. À partir de quel moment on bascule sur quelque chose qui peut relever du harcèlement, peut être caractérisé pénalement et qui, dans le cadre de l'exercice d'un mandat de député aussi, intéresse l'opinion publique et pour lequel la presse est susceptible de s'y intéresser. Moi, je me souviens bien, pour l'historique de ce dossier, mon premier article sur le sujet date de septembre 2020. C'est le premier article qui pointe cette situation-là. Et évidemment, il y a eu une partie des retours, et d'ailleurs de Benoît Simian lui-même, qui disait: mais vous immiscez dans ma vie privée, ce que vous racontez n'a rien à faire sur la place publique, etc. Et tout l'enjeu a été d'expliquer et de raconter, et c'est d'ailleurs ce que vient de consacrer la justice par sa décision, qu'il ne s'agissait pas simplement de tensions autour d'un divorce, mais bien qu'il avait des pratiques, y compris en utilisant les moyens de son mandat de député, intimidantes, harcelantes à l'égard de son ex-femme. Donc vous avez raconté des épisodes assez groquignolesques, hein, où il décide d'aller se baigner dans la piscine alors qu'il n'a pas le droit d'être là, où il plante des piquets, où il fait livrer du matériel devant le domicile, où il gare volontairement son véhicule devant le portail pour empêcher son ex-femme de se rendre avec sa fille à un rendez-vous médical. Enfin voilà, il y a 41 faits à chaque fois qui sont totalement documentés, d'ailleurs que Benoît Simian ne conteste pas et n'a pas contesté le jour du procès, pour la simple et bonne raison d'ailleurs qu'il y avait des caméras, donc il est bien en difficulté de contester et de dire qu'il n'était pas présent ces jours-là, mais qui viennent effectivement apporter finalement un continuum dans son comportement et matérialiser le harcèlement et bien montrer qu'il ne s'agit pas de tensions qui peuvent être naturelles dans un couple au moment d'un divorce, mais bien d'un comportement beaucoup plus problématique que cela.
Oui, il est allé d'ailleurs jusqu'à uriner sur la pelouse de son ex-femme. Et lorsqu'il est intercepté par les gendarmes, une nouvelle fois à proximité du domicile de son ex-compagne, son excuse est là encore assez incroyable.
Oui, c'est une scène où il est donc à proximité du domicile. Il faut savoir qu'à l'été 2020, les gendarmes, qui ont quand même d'autres choses à faire dans leur quotidien que d'aller surveiller un député, étaient appelés quotidiennement pour essayer de venir réguler cette situation. Donc il y a des procès-verbaux qui ont été à chaque fois rédigés, qui sont dans la procédure et qui expliquent que tel jour, à telle heure, ils reçoivent le coup de téléphone de l'ex-femme du député, totalement paniquée, expliquée expliquant il est encore là, venez voir. Le parquet de Bordeaux a d'ailleurs dû octroyer à cette dame un téléphone grave danger pour qu'elle puisse immédiatement prévenir les services de la gendarmerie quand son ex-époux approchait du domicile. Et donc une fois il s'est rendu au domicile, les gendarmes l'ont intercepté finalement, et le procès verbal est assez édifiant. Quand on le lit, on voit que Benoît Simian conteste son identité même devant les gendarmes. Il dit non, mais c'est pas moi, Benoît Simian. Il semble complètement perdu. Donc, les gendarmes, dans leur procès-verbal, font part de leur étonnement, et puis raconte qu'ensuite il s'éloigne un petit peu, il a une démarche un petit peu nonchalante, il dit qu'il s'appelle pas Benoît Simian alors qu'il a quand même une carte de l'Assemblée nationale qui est adossée à son costume, et puis finalement quelques instants plus tard il semble reprendre ses esprits, il dit ah excusez-moi, j'ai eu une perte de mémoire, oui c'est bien moi, je suis désolé, enfin voilà, un comportement qui est hors du commun, très étonnant, et d'ailleurs les gendarmes le signifient dans leur procès-verbal en expliquant qu'ils sont quand même extrêmement étonnés du comportement de cet homme qui plus est représentant de la nation. Ain't it funny how a man who's never met me tries to tell me what I can and cannot do with my body? Ain't it funny how we tell our little girls don't be a slut, like it's my fault he held me down at that party? You'll say my dress was too short, and if I bring them to court, you'll let them off with a slap on the wrist. Until he does it again, and you have to pretend you didn't know that he was dangerous. You know what? Well, you can go and fuck.
Alors, il y avait une autre affaire dans l'affaire à laquelle vous aviez fait allusion à l'instant et que nous avions largement évoqué la dernière fois, mais l'Assemblée nationale avait refusé de lever l'immunité parlementaire de Benoît Simian. Cela lui avait évité la garde à vue, mais ça n'a donc pas empêché la tenue du procès, évidemment. Avec le recul, est-ce qu'on arrive à comprendre ou justifier ce refus de lever l'immunité ?
Ce refus de lever l'immunité de Benoît Simian, c'est ça qui a donné vraiment une dimension nationale à ce dossier. C'est-à-dire qu'en septembre 2020, quand on fait notre première enquête, quand on la publie, évidemment, il y a une vague d'indignation face au comportement de ce parlementaire. Mais on sait que l'enquête débute. Et puis, la procureure de la République de Bordeaux, Frédéric Porterie, sollicite en décembre 2020 le bureau de l'Assemblée nationale pour, à partir des premiers éléments de l'enquête préliminaire, pour solliciter la levée de l'immunité parlementaire du député, expliquant qu'elle a besoin de pouvoir l'entendre sous le régime de la garde à vue, qui est un régime coercitif. Et donc pour cela, il faut que le bureau de l'Assemblée se prononce. Et là, c'est quelque chose d'exceptionnel, la décision du bureau, c'est-à-dire de refuser cette levée d'immunité. C'est totalement inattendu, en fait, à ce moment-là. Et c'est là que prend ce dossier une dimension totalement nationale, parce que plus que l'affaire Simian, ça devient aussi une affaire Assemblée nationale, ou une affaire Richard Ferrand, qui était le président de l'Assemblée nationale. De ce que moi j'ai pu reconstituer de la manière dont ça s'est passé, c'était donc un vote du bureau de l'Assemblée nationale. Le dossier a visiblement été très mal préparé, très mal présenté aux députés qui étaient présents, expliqué qu'on était dans quelque chose qui relevait de la sphère intime, privée, un divorce compliqué, et visiblement il y a une volonté, mais je ne me l'explique pas encore, d'atténuer les tenants et aboutissants de ce dossier, qui fait que finalement le bureau de l'Assemblée et certains parlementaires, pour certains sincères dans leur démarche, se sont dit « oulala, c'est quoi ça ?» ne s'étaient pas renseignés avant, il y a eu un gros déficit vraiment de débat autour de ce dossier-là, qui fait que le bureau de l'Assemblée s'est prononcé contre la levée d'immunité. Il faut savoir qu'il n'y a pas de possibilité d'appel, c'est-à-dire que le bureau de l'Assemblée ayant décidé de refuser la levée d'immunité de Benoît Simian, le dossier était refermé, et donc Benoît Simian n'a pas pu n'a pas pu être entendu sur le régime de la garde à vue. C'est quelque chose qui a été encore une fois souligné au moment de son procès, en expliquant que peut-être une bonne garde à vue pendant 24 ou 48 heures, ça l'aurait peut-être dissuadé de continuer son comportement, et ça lui aurait fait peut-être comprendre qu'il était en train de franchir allègrement la ligne rouge. Ça n'a pas pu être fait. Les enquêteurs ont quand même réussi à boucler leur dossier pour qu'il soit renvoyé devant le tribunal sans être placé en garde à vue. Mais aujourd'hui, ça laisse une trace indélébile sur le quinquennat qui vient de s'écouler, sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, la présidence Richard Ferrand. Je tiens quand même à rappeler que la grande cause du quinquennat précédent qui a été renouvelé pour ce quinquennat-ci, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes, et évidemment le refus de lever l'immunité parlementaire de Benoît Simian, qui vient en plus d'être condamné, donc qui est bien la preuve que ce dossier était extrêmement, extrêmement solide, ne peut être que interprété aujourd'hui par une volonté d'autoprotection du personnel politique.
Anton, au-delà des faits de harcèlement déjà particulièrement graves, l'ex-député Simian s'est aussi illustré, si j'ose dire, en multipliant les pressions auprès des gendarmes, en dénonçant indûment le personnel de la crèche où est accueilli l'enfant qu'il a eu avec son ex-femme, en dénonçant des vols qui n'ont en fait jamais eu lieu. S'ajoute à cela, et sans lien direct avec cette affaire, des soupçons de harcèlement envers l'une de ses collaboratrices à l'Assemblée nationale. L'enquête est en cours et il est donc sur ce point présumé innocent. Le dossier Simian commence à être très très chargé. Quel peut être son avenir aujourd'hui? Il vient de perdre son mandat, on l'a dit, lors de ces législatives, mais il n'est pas inéligible. Il peut demain revenir dans la vie politique, selon vous?
Ben, s'il le souhaite, il peut évidemment poursuivre son engagement politique. Rien ne l'interdit d'un point de vue formel ou réglementaire. Après, moi, ce que je constate très factuellement, c'est que ces récentes tentatives électorales, parce que c'est bien de vouloir des mandats, mais encore faut-il avoir des électeurs pour les décrocher. Ces récentes tentatives électorales se sont non seulement soldées par des défaites, mais c'est des échecs cuisants aux élections départementales de 2021, où il s'est présenté. Il a fait un score autour de, si ma mémoire est bonne, de 5%. Au premier tour des élections législatives, où il s'est présenté en toute surprise, hein, je crois que ça a étonné énormément de personnes. Là aussi, en dissidence, il a fait un score inférieur à 4%. Score qui a d'ailleurs, aussi minime soit-il, empêché la candidate investie par la majorité présidentielle d'accéder au second tour, et donc à empêcher la majorité de décrocher potentiellement cette circonscription-là. Donc il a eu ce petit pouvoir de nuisance-là, mais par contre, le concernant, la voix me paraît un petit peu obstruée, et j'ai du mal à croire que la confirmation de ses agissements par le jugement rendu par le tribunal jeudi dernier ne viennent pas consolider l'avis des électrices et des électeurs concernant les activités de Benoît Simian. D'autant que, comme vous l'avez dit, on se rend compte petit à petit qu'il a utilisé aussi ses moyens de député pour d'autres choses, pour parfois attaquer des opposants. Je pense notamment au maire de Ludon-Médoc, la commune dont il est issu, et donc il a mené une véritable guérilla à un moment contre lui, en utilisant notamment des courriers en tête de l'Assemblée nationale. Il a aussi une enquête, comme vous l'avez dit, pour des faits présumés de harcèlement sexuel sur une collaboratrice. Enfin, voilà, son avenir politique semble obstrué, mais les dossiers, eux, sont en tout cas bien ouverts. Donc, d'un point de vue formel, il peut continuer à mener ses combats politiques. Je crois qu'il continue sur les réseaux sociaux. Il a sorti un livre. Il se vante d'avoir le soutien du président Emmanuel Macron, etc. Mais d'un point de vue très concret et pragmatique, je ne suis pas persuadé que grand monde le suive actuellement dans ces entreprises. You serve your right to suffer. Serve your right to be alone. Serve your right to suffer. Serve
of your right to be alone. Because you're still living the day done past and gone.
Est-ce que ce jugement a constitué une surprise pour les observateurs ? Il était attendu, Benoît Simian d'ailleurs n'a pour l'instant pas annoncé son intention de faire appel, il était attendu ce jugement, il a forcément une portée symbolique.
Oui, surtout que les dossiers de harcèlement sont pas les plus simples à consolider hein, devant la justice. On sait que le harcèlement c'est une qualification parfois compliquée, notamment en termes de matérialité des faits. On n'est pas sur des questions, je sais pas, relevant de finances avec des détournements de fonds, ou de l'abus de confiance ou de l'abus de biens sociaux où là il y a des flux financiers, c'est beaucoup plus simple à analyser. Là il y a un côté très immatériel dans la caractérisation du harcèlement qui fait que c'est jamais des dossiers simples et qu'il est souvent bien compliqué de déterminer à l'avance quelle va être l'attitude du tribunal et la décision du tribunal. En l'occurrence, on a vu au moment du procès l'ensemble des observateurs qui étaient là au moment du procès ont bien senti de quel côté pouvait tomber la pièce dans le sens où les réquisitions étaient extrêmement fortes, notamment sur les demandes, mais aussi sur les paroles qui ont accompagné ces demandes. La procureure de la République adjointe de Bordeaux, Rachel Louret, a quand même parlé d'attitude totalement déplorable. Il y a eu des mots extrêmement forts. Et surtout, Benoît Simian lui-même, dans sa défense, a été quand même assez léger, finalement en s'excusant. Il n'avait pas grand-chose à contester sur le fond parce qu'il a été mis en difficulté par l'enquête, mais même lui ne semblait pas toujours très sincère dans la manière de se défendre. Donc, de ce point de vue-là, ça n'a pas été une énorme surprise, mais par contre, de voir un député condamné pour un ancien député aujourd'hui, mais qui vient juste de perdre son mandat, condamné pour le harcèlement de son épouse, c'est quand même quelque chose qui relève de l'exceptionnel, c'est hors du commun. Et puis surtout, il faut bien rattacher au fait que Benoît Simian a été mis en cause aussi pour avoir utilisé la puissance et le pouvoir que lui conférait son mandat parlementaire, et que c'est par ce moyen-là aussi qu'il a pu agir pendant tant de temps avec autant d'impunité.
Un tout dernier mot, Anton, est-ce que vous savez comment se porte aujourd'hui l'ex-épouse de Benoît Simian ?
Alors moi, les échos que j'en ai eus par son avocate, maître Galima Blal Zenasni, c'est vraiment l'idée que cette condamnation pour sa cliente doit, ou espère-t-elle en fait, lui permettre de retrouver une vie sereine, lui permettant de s'occuper de ses enfants, de retrouver de la tranquillité. Moi, les échos que j'en ai eus par son avocate et ensuite quand je l'ai vu au moment du procès, c'est quelqu'un qui est dans un tourbillon depuis le printemps 2020, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui a eu le sentiment pendant des mois, voire des années, que en fait c'était un combat à armes totalement inégales d'un député bénéficiant d'une forme de surpuissance, ayant des accès absolument privilégiés, pouvant revendiquer des soutiens réels ou supposés, bénéficiant d'une immunité parlementaire, etc. Et elle, une dame qui était sans emploi, qui a dû faire face à cela, qui a dû multiplier les plaintes et qui pensait que le dossier n'aboutirait jamais. Donc moi, de ce que j'ai compris des échanges avec son avocate, c'est qu'elle était soulagée qu'un jugement vienne reconnaître ce dont elle avait été victime, même si les condamnations, la condamnation et notamment les dommages et intérêts au titre du préjudice moral, 5 000 euros, sont extrêmement faibles. Hein, on peut considérer au regard du préjudice qui a été le sien, mais au moins la décision du tribunal vient valider en termes judiciaire la réalité de ce qu'elle a vécu pendant tous ces mois.
Merci beaucoup Anton Rouget d'être venu au micro de Podcasting une nouvelle fois. Je rappelle le titre de votre article, l'ex-député LREM Benoît Simian condamné pour le harcèlement de son ex-femme, il est à retrouver sur le site de Mediapart. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Chénion, Clara Etchari, Enola Richer et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïem, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.